Vous écoutez RTL.
RTL, il est 9h.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Et dans un instant, les confidences de trois grands noms du cinéma qui marquent l'actualité de ce mercredi. Jeff Goldblum, Steven Soderbergh, Laurent Lafitte, Stéphane Boutsock les a tous rencontrés. Un nouveau talent apparaît sur la scène musicale française, son nom Teamed Up. Il a 22 ans et publie un premier album intitulé Mélancolie Heureuse. On le découvrira avec Steven Bellery. À la télévision ce soir, les 40 ans du Puy du Fou, à l'honneur sur M6, ce sera l'un des choix d'Isabelle Morini-Bosque. Et puis notre émission a désormais son coffret jeu sort aujourd'hui, mais oui mes enfants. 450 questions pour tester ses connaissances en cinéma, en musique, littérature. J'adore monsieur, vous allez m'en offrir un.
On va jouer.
Ou encore le théâtre. Ah super. On jouera avec Bernard Lehu et puis on vous offrira bien évidemment des boîtes de jeux. Laissez-vous tenter au 32-10. C'est tout ce que j'ai.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Notre page cinéma du mercredi avec vous, Stéphane Boutsock, bonjour.
Bonjour à tous.
Avant de parler des sorties de ce 25 octobre, on fait le point comme chaque semaine sur les entrées écoulées et on note le démarrage moyen du dernier film de Omar Sy.
Oui, d'après nos amis du site cbo.fr, Knock de Lorraine Lévy avec Omar Sy n'a attiré que 260 000 spectateurs dans les salles. Alors ça peut paraître pas mal, 260 000, oui. Mais pour un film avec Omar Sy, c'est vrai que c'est assez faible. Du coup, c'est Le Sens de la Fête qui reprend la tête du classement. Ça marche donc mieux et bien, puis les vacances devraient encore amplifier ça. On est à 1,7 million en 3 semaines. Blade Runner 2049, film RTL, passe le seuil du million et ça continue à très bien marcher. L'école buissonnière, ça c'est peut-être l'effet Cluzet, toujours, hein, parce qu'il y a un effet Cluzet dans les salles. On est au-delà des 600 000. Et puis Coexister de Fabrice Eboué, je suis ravi, se reprend en 2e semaine et atteint désormais les 450 000 spectateurs au total.
Du côté des nouveautés à l'affiche, Stéphane, l'événement de la semaine, c'est le film RTL, au revoir là-haut, avec Alvec et deux, Albert Dupontel. Excusez-moi.
Formidable, enthousiasmante adaptation du roman de Pierre Lemaitre. Ils étaient tous les deux nos invités jeudi dernier. Le film, on le rappelle, se déroule après la Grande Guerre dans le Paris des années folles, où deux mondes s'opposent, celui des petits qui tentent de survivre et des puissants qui se goinfrent. On va donc suivre le destin de deux rescapés des tranchées embarqués dans une rocambolesque arnaque monument aux morts. C'est spectaculaire, burlesque, drôle, cruel, tendre. Au revoir là-haut, un grand film de cinéma dans lequel Albert Dupontel a su trouver une place pour son univers à lui et puis choisir, on le rappelle aussi, un casting impressionnant. Il joue dedans, Albert, mais on y trouve également Nils Arestrup, Mélanie Thierry, Émilie Dequen, Nahuez, Pérez Biscaillard et Laurent Lafitte. Vous allez adorer, détester l'acteur en salaud, affairiste et lâche, registre avec lequel il s'est beaucoup amusé.
Pradel, ce que j'aime bien, c'est que c'est un salopard flamboyant. Il y a une dimension un peu à la Joker. C'est un personnage qui se met un peu en scène, qui a une conscience de ce qu'il dégage, de ce qu'il représente, qui a conscience de son pouvoir en permanence et qui prend du plaisir, une forme de jouissance. Donc ça, c'est agréable à jouer parce que c'est assez théâtral. Donc après, c'est un équilibre à trouver entre justement sa théâtralité et le risque de la caricature ou du jugement. Et ça, c'était avec Albert que ça se faisait.
Laurent Lafitte, un des acteurs remarquables d'Au revoir là-haut d'Albert Dupontel, donc à découvrir au cinéma ce mercredi. Au rayon français, je vous signale, Épouse-moi mon pote de Tarek Boudali,
j'ai
le complice.
J'ai vu la bande-annonce qui m'a fait beaucoup rire.
Et moi aussi, alors, ça m'a fait
rester sur la bande-annonce. Bon, complice d'accord. De Philippe Lachaud dans l'aventure Babysitting et Alibi.com. Les deux amis se retrouvent d'ailleurs à l'affiche de cette comédie. Allez, poussive, qui imagine comment un étudiant marocain qui a perdu les droits de son visa en France va convaincre son pote de se marié avec lui pour recouvrer ses droits. C'est pas bien fin ni bien léger, mais je peux comprendre, les fans du duo vont y trouver leur compte.
C'est l'autre genre, alors. Bon, les amateurs de Marvel devraient aussi être heureux aujourd'hui, puisque Thor et son bon gros Marco sont de retour sur nos écrans.
Le dieu nordique revient en effet pour le 3e épisode de ses aventures solo, donc hors de la saga Avengers, dans Thor Ragnarok. Ragnarok, ça veut dire...
Son nom de famille ?
Non, c'est pas son nom de famille. Ça veut dire apocalypse,
d'accord.
En langage nordique. Il va se retrouver dans un univers parallèle suite au décès de son papa, Odin. Et
Odin est mort.
Et au retour de sa demi-sœur maléfique, un univers parallèle où il va être réduit au rôle d'un gladiateur des temps modernes, affrontant notamment Hulk, le gros géant vert. Alors le film part un petit peu dans tous les sens, empruntant la voie de l'action, de l'humour décalé. C'est à la fois extrêmement présent plaisant et vaguement ennuyeux, mais on y croise Chris Hemsworth, qui joue Thor, Anthony Hopkins, qui en fait des caisses comme d'habitude dans le rôle d'Odin, Kate Blanchett, Idris Elba et Jeff Goldblum dans le rôle du grand maître, créature divine au pouvoir illimité, comme nous le raconte le comédien.
He and his brother, the collector, Benicio del Toro.
Lui et son frère, le collector, joué par Benicio del Toro dans les films, sont nés après le Big Bang. Donc, ce sont les plus vieilles créatures vivantes. Moi, je possède le plus grand des super-pouvoirs. Je peux jouer et défier la mort en personne et même gagner puisque je suis éternel. Et puis, je peux tuer quelqu'un juste par la pensée et ensuite le ressusciter. J'ajoute que je sais voler, léviter, grandir, rapetisser. Mais à ce moment de ma vie, je suis à la recherche de choses simples, comme d'avoir juste de la confiture pour mes tartines. Ça, c'est le boulot de mon assistante que je maltraite. Enfin, j'adore les jeux du cirque opposés des gladiateurs comme Thor et Hulk dans ce film.
Jeff Goldblum, allez voir.
Oh là là,
mais ça, c'est très plaisant. Qui s'est régalé sur ton âge parce que le réalisateur de Thor Ragnarok, qui s'appelle Taika Waititi, c'est le nom du réalisateur, laisse généralement ses comédiens improviser et Jeff Goldblum, qui est un petit peu cabot quand même, s'en est donné à cœur joie. Autre sortie du jour calibrée pour les vacances, le film d'animation Opération Casse-Noisette 2, suite donc du premier volet. Ça avait cartonné en 2014. On y retrouve Surly l'écureuil jeté à la rue après l'explosion d'une maison qui abrite sa réserve de noisettes. Je ne consomme aucune substance interdite. Il décide donc l'écureuil de trouver refuge dans un parc, mais le maire de la ville veut transformer le parc en parc d'attractions. Donc l'affrontement est inévitable. C'est plutôt pour les petits, mais les grands y trouveront aussi leur compte parce qu'il y a pas mal de clins d'œil et de secondes.
J'ai failli faire une embardée en scooter hier en voyant l'affiche sur les culs de bus. Je savais même pas qu'il y avait déjà eu un casse-noisette numéro 1.
1,5 million d'entrées le premier.
Ah oui, voilà, vous voyez. Alors pour terminer, Stéphane, un coup de cœur pour Logan Lucky, le retour au cinéma de Steven Soderbergh.
Il y a près de 5 ans, le réalisateur américain, on lui doit Ocean's Eleven et les suites, Erin Brockovich ou encore Traffic, avait décidé de faire une pause, de s'éloigner des plateaux. Eh bien, l'y revoici avec une nouvelle histoire de braquage. Logan Lucky, si vous voulez, c'est Ocean's Eleven, mais chez les ploucs, dans le fin fond de la Caroline du Nord, où une bande de bracassés fracassés par la crise et le chômage décide de se venger en mettant la main sur la recette d'un circuit de course auto. Dans le film, Channing Tatum, Adam Driver et Daniel Craig, méconnaissables, irrésistibles, en pied-niquelé, navrant, attachant, j'ai demandé à Steven Soderbergh pourquoi il avait choisi de revenir au cinéma avec donc un nouveau film de braquage.
There is an idea. You put a group of people together. Things go wrong.
Il vous faut une idée, rassembler une équipe, et puis les choses se gâtent, il y a des conflits entre les gens. Si le braquage rate, vous allez en prison. Si le film se plante, vous allez aux oubliettes du cinéma. Donc les parallèles sont évidents, et ça fait partie de ce qui m'a séduit, avec en plus le fait que ce genre d'histoire est parfaitement taillé pour un film. C'est visuel, il y a toujours une galerie de personnages excentriques. Et puis si les cinéastes reviennent à ce genre-là, c'est aussi parce que c'est marrant à faire. J'ajoute qu'il y a plein de façons de le faire. D'un côté, vous avez les films comme Ocean's Eleven ou Logan Lucky. Et de l'autre, vous avez Heat de Michael Mann. En théorie, c'est pareil, mais c'est très différent au final de ce que nous avons fait.
Ne ratez pas ça. Steven Soderbergh, de retour donc dans l'excellent Logan Lucky. Ça sort également au cinéma aujourd'hui.
Merci beaucoup, Stéphane. Alors, on va passer à nos audiences télévisées de la veille avec Médiamétrie. Je vois que voilà, vous avez fini vos petits calculs, Isabelle.
Oui, je suis en train de vérifier. Alors écoutez, très joli score pour Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. En même temps, un film de vacances pour des écoliers en vacances. Donc 6 millions de téléspectateurs et 25% du public sur TF1. Néanmoins, c'est 163 000 de plus seulement que Capitaine Marlowe sur la 3. Or, c'était une rediffusion. Donc définitivement, très joli score. Et Le Meilleur Pâtissier sur M6 franchit la barre des 3 millions de fidèles, 3 100 000, avec 15% du public sur la 6. C'est également un joli score. La déception est pour Des Vétérinaires en Action, Aventure de Médecine sur la 2. Franchement, ça méritait mieux que 2 100 000 téléspectateurs, même si c'est pas un naufrage. Et côté TNT, c'est La Montagne ensorcelée sur Énergie 12, 655 000 téléspectateurs.
On se retrouve dans quelques instants pour notre soirée télévisée. Vous nous emmènerez notamment au Puy du Fou. A tout de suite avec Team Dove. Vous allez voir, moi, alors, les extraits que j'ai entendus, j'ai adoré ça. Et ça va vous être présenté par Steven Bedry.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Yves Calvi jusqu'à 9h30.
De la musique maintenant, une rencontre avec un jeune artiste. Il s'appelle Tim Dup. Son tout premier album, Mélancolie Heureuse, sort vendredi. Steven Bellery, bonjour.
Bonjour à tous.
C'est l'un de vos gros coups de cœur de l'automne.
Oui, c'est même pour moi la révélation masculine de l'année. Timothée Dupéré, à l'état civil, à 22 ans. Il est originaire de Rambouillet, dans les Yvelines. Un jour, dans le train, Tim Dup a écrit en un trajet, TER Centre, extrait.
Les banquettes sont chauffées par des culs différents, les regards se croisent indifférents, les paupières se ferment fatiguées, éreintées d'une journée épuisante, les chances s'effilent en building, les grands arbres s'enterrent et se changent en parkings, tout un monde que tu traverses quand tu prends le TER Centre.
Du Printemps de Bourges à l'album Barbara d'Alexandre Tarot, Tim Dup a pris son temps. Ses 14 morceaux sont d'une grande élégance. Sa poésie citadine se fracasse à son phrasé singulier entre rap et chanson. Sa fragilité vocale donne des frissons. Tim Dup a découvert la musique en se mettant derrière un piano à l'âge de 7 ans.
Une fois que j'ai pu avoir quelques bases pianistiques, j'ai très eu vite envie de composer, quoi, de divaguer sur l'instrument, parce qu'il y avait ce truc d'émotion et que j'ai vite senti puis ce qu'on pouvait mettre dedans, quoi. La première chanson que j'ai écrite, j'ai pris Imagine de John Lennon, qui était en do majeur, donc pleine d'espoir, évidemment, comme on la connaît, et puis je l'ai mise en la mineur, en bidouillant un peu, et puis je trouvais ça plus triste. C'était pour une fille, je me disais que ça allait peut-être mieux marcher si la chanson était plus mineure.
Des jours sans fin. Merveille, merveille, contre son sein.
Ouais, j'ai vraiment grandi dans un environnement musical depuis tout petit, parce que mes frères et sœurs déjà faisaient aussi du piano, et il y avait toujours de la musique qui passait de manière assez aléatoire, donc c'est aussi comme ça que j'ai compris la musique, et puis aussi ensuite parce que je fais partie de la génération iPod, donc on a toujours tout écouté en aléatoire, et ce truc de mixage de genre, je pense que ça fait vraiment partie de nous.
J'ai mis des sons.
Alors ce truc de mixage des genres, hein, comme dit Tim Dup, cet album emprunte à tous les styles, Steven. Hein.
Oui, c'est un objet inclassable en cela, un exercice d'équilibriste qu'il résume dans la formidable plage d'ouverture intitulée Paradoxe.
Je suis le paradoxe, l'antithèse, le singulier. Je suis schizophrène, l'inconnu et la complexité. Je suis le paradigme qui sans cesse dans cette société doit faire des pieds et des mains pour se réinventer.
Je trouvais ça cohérent de commencer l'album en disant voilà qui je suis. Aussi dans les textures, le son, je pense que c'est assez symptomatique de l'ensemble de l'album. On retrouve à la fois le piano qui est au centre du morceau, un texte assez fleuve, et cette idée toujours d'oxymore, de dualité. Je crois que ça fait partie de moi, et puis en même temps ça fait aussi partie peut-être plus globalement de ce que je vis, de ma génération, un truc un peu le cul entre deux chaises, jamais trop à sa place et en même temps qu'a envie d'en trouver. On n'a pas ce rapport à la musique de rupture, de contradiction comme pouvaient l'avoir nos parents. Mais aujourd'hui, je trouve que c'est une culture qui est vraiment métissée et qui est une culture de la fusion.
Ça va être un casse-tête dans les magasins de disques, on va le mettre où votre album ?
Sur iTunes, il est classé dans variété française. Et littéralement, ça me déplaît pas parce que je chante en français et puis c'est varié.
Je suis... La prénotion, le cliché, la promotion du préjugé. Je suis le parisien, Télérama, le Coran et la Torah. Je suis l'athéisme et la foi, le rap et la beau, ça ne va. Je suis la couleur, la fadeur, le noir, le blanc. Je suis le plombier, le facteur. Je suis la pute et puis le pan. Je suis tout, je ne suis rien.
J'ai toujours voulu devenir un ramasseur de souvenirs, chante Tim Dup. Sa sensibilité à fleur de peau se mêle à sa prose virulente, créant de véritables photographies de la nouvelle génération.
Les chansons sont aussi un défouloir, des passions, des manques, des absences, des frustrations. Ouais. J'écris vite. J'aime bien qu'il y ait un truc assez brut, assez urgent. L'idée, c'est vraiment d'inclure des gens. Je pense qu'on est une génération de contrastes, où à la fois on a l'impression d'être immortel, et on se la fout tous les week-ends, et au final, pour pas grand-chose.
Un peu de mélancolie heureuse qui donne son nom à l'album.
C'est peut-être le sentiment de prendre conscience qu'on est heureux. Et ce sentiment donne parfois les larmes aux yeux, du coup. Puis c'est des états dans lesquels j'aime bien composer aussi.
Un peu de mélancolie heureuse, comme la douceur de la paresse, comme une
Mélancolie heureuse, le premier album de Team Dup sort vendredi. Formidable, il part en tournée à partir du 7 décembre.
Un peu de mélancolie heureuse, comme la quiétude d'une caresse, comme une euthanasie joyeuse, bien l'opposé de la détresse.
Merci beaucoup pour ce portrait, Steven Bellery, consacré à Team Dup. On était ravis de découvrir cet artiste. Bernard Leu.
Oui.
Laissez-vous tenter, c'est également un coffret de jeux vendu désormais dans toutes les bonnes librairies.
Eh oui, le jeu de votre émission 100% culture. Alors la règle est toute simple, 450 questions pour vous amuser à tester vos connaissances en musique, ciné, télé, théâtre, expo et spectacle, sans oublier la BD et les livres. Vous choisissez une de ces 6 catégories, vous tirez une carte, une question au hasard. Le gagnant, c'est le premier à réussir à former le mot « tenter » en cas de bonne réponse avec les lettres qui figurent au dos de chaque carte de jeu. On y joue ?
Mais oui,
y
bien sûr, j'adore ça.
Ah ben on commence par le cinéma.
Stéphane ne répond pas.
Je prends une fiche au hasard. La question 3. Quels sont les deux acteurs principaux du film Sur la route de Madison ?
Je vous laisse.
Meryl Streep. Voilà. Alors, Woody Allen, est-ce que c'est un pseudonyme, vrai ou faux ?
Je pense que c'est son nom.
Alors, c'est un pseudo. Ça, moi, j'avais oublié son véritable nom. C'est Alan Stewart Koenigsberg. Allez, une petite dernière en cinéma. Bon, voilà, là, Stéphane connaît la réponse. Jean Dujardin a été le deuxième acteur français à remporter l'Oscar du meilleur acteur. Vrai ou faux ?
Premier, non ?
Bien sûr, c'était le premier. Allez, on passe.
Alors, vous comptez pas les femmes, alors ?
Écoutez bien. Alors, musique, catégorie musique. Comment s'appelle l'album de Louane, sorti en 2015 ? Jour 1, volume 2 ou Chambre 12 ? C'était Chambre 12.
Bonne réponse de Stephen Bellery.
La fastoche, le plus gros succès commercial de Prince est la bande originale de quel film ?
Purple Rain.
On passe à la télé,
oui.
Catégorie télé. Alors, Koh-Lanta est diffusé sur TF1 depuis 2001, 2006 ou 2011 ?
2001,
bravo Isabelle.
Bravo Isabelle.
Alors là, bon, c'est une question maison. Quel anniversaire l'émission Laissez-vous tenter de RTL a-t-elle fêté le 31 décembre 2016 ?
Le 15e !
C'est à cette occasion que sort ce coffret-jeu 15e. Quel est le plus ancien jeu télévisé quotidien en France ?
Les chiffres des lettres. Et la plus vieille émission, le jour du Seigneur.
On passe à la catégorie expo, art, etc. Quel peintre a vécu à Giverny ?
Ah, il y en a plusieurs.
Monet. Quelle comédie musicale programmée pour la réouverture du théâtre Mogador en 2017 est adaptée d'un film avec John Travolta, Grease, Pulp Fiction ou Saturday Night ?
Grease.
Deux petites questions, catégorie livre. Qui est l'auteur de Ne le dis à personne, adapté au cinéma par Guillaume Canet, Harlan Coben, Michael Connelly ou Lisa Gardner?
Coben.
Bien sûr, c'était Harlan Coben. Et puis, qui préside l'Académie Goncourt depuis janvier 2014?
Bernard Pivot.
Voilà. Donc, alors, laissez-vous tenter.
On a plutôt fait un 8 sur 10.
C'est pas mal. C'est le coffret-jeu de l'émission 100% culture. 450 questions, 150 cartes. Et puis, alors, il y a un petit livret où toute l'équipe est présentée. Vous y figurez aussi, Yves, bien entendu. Alors, c'est publié aux éditions Marabout. En plus, c'est un petit cadeau pas cher. Ça coûte 10,90 €.
Alors, c'est un petit cadeau pas cher qui coûte 10,90 €, mais on va vous l'offrir si vous nous appelez au 3210 et que vous répondez à la question que vous pose immédiatement Bernard.
Alors, une question du jeu, je la prends dans le jeu, dans la catégorie musique, quel trio de chanteurs a formé les Vieilles Canailles ?
Réponse au 3210.
Et achetez aussi la compilation, puisqu'on parle musique, 4 CD compilation Laissez-vous tenter pour les 15 ans qu'on a également concocté pour vous.
Dans un instant, direction le Puy du Fou. Avec mademoiselle Isabelle Maury-Dibosque. À tout de suite.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Notre soirée télévisée, Isabelle Maury-Dibosque. On va commencer par Impostures, le documentaire espagnol qui vous a fasciné sur Canal+.
C'est pas grave, j'aime bien. Oui, quel est le point commun entre des stars de Hollywood, façon Mickey Rourke ou Lee Jackson, de puissants hommes d'affaires, des petits retraités désargentés, Catherine Breillat, etc.
Forcément un scandale.
Ils se sont tous fait escroquer par le Normand Christophe Rocancourt, qui, durant 35 ans, a floué tout le monde tout le temps. Le réalisateur Olivier Mégaton, Taken 2 et 3, a interrogé les victimes de Rocancourt partout dans le monde, Monde a filmé 3 fois l'escroc entre 2016 et 2017, d'où un film captivant et dérangeant dont on verra la seconde partie mercredi prochain sur Canal. C'est bien la première fois qu'avec Rocancourt, on en a pour son argent.
Il a même un échangeur à son nom hein, sur l'autoroute.
Alors,
comme quoi il est très fort.
Il ne fait pas que voler, il échange aussi.
Non mais il paraît que c'est extraordinaire ce documentaire. Bon. Oui. Alors, votre autre coup de cœur, outre le sur C8, c'est la spéciale d'M6 consacrée aux 40 ans du Puy du Fou.
Oui, et vu le nombre de reportages qu'il y a déjà eu légitimement sur ce parc, M6 a décidé d'innover, de le faire vivre de l'intérieur en demandant à 5 animateurs maison, Julia Vignali, Ophélie Meunier, Jérôme Anthony, Philippe Etchebest et David Ginola, de s'immerger avec les équipes du Puy pour présenter chacun une prestation de 2 minutes 30, leur demandant au moins 2 jours de répétition et d'entraînement. À Ophélie Meunier, la fauconnerie, elle va découvrir qu'il y a des vrais vautours, il n'y en a pas que dans les médias. À David Ginola, le trident de gladiateur. Et à Philippe Etchebest, le rôle de l'envahisseur viking qui devra faire une chute de 7 mètres, échantillon de son entraînement avec les cascadeurs.
T'as pas peur de prendre des coups ? Non, prendre des coups, non. Ça m'a jamais fait peur. En donner non plus. Hein.
On y va ?
Maintenant, on va commencer l'entraînement. Tu vas faire le rôle de Ragnar. Il a plein d'actions, notamment celle de la chute d'échelle. Pour un novice, c'est quelque chose de très difficile. La chute, avec la sensation de partir en arrière, elle n'est absolument pas naturelle.
Quand je recule, vas-y.
Top !
J'ai fait un petit plat sur le dos. Comment ça va ?
Ça va ?
J'ai bien senti le dos.
Normalement, ça arrive pas 2 fois.
Ah non, je confirme, ça arrive une deuxième fois. Là, il y a combien ? 5 mètres ?
7 mètres.
7 mètres de hauteur, c'est énorme. Le risque, c'est quoi ?
C'est un, de tomber sur le sol. Deuxième risque, après, au-dessus de l'eau, la réception peut être plus ou moins agréable.
Allez !
Voilà. David Ginola s'entraîne lui aussi avec de vrais pros et de vraies armes, ravi que l'ennemi à battre soit un partisan de l'OM.
Supporter de l'OM. Lui, je vais les saigner. Je vais prendre un plaisir.
Paf. Là, tu peux retirer glaise.
Vas-y.
Attrape-lui le coup. Voilà.
Voilà. Là, je me suis même pris au jeu, c'est en public. Donc, j'imagine quand il va être là, je vais l'avoir là, que le public il va crier. Je vais le saigner. Il faudra que je fasse attention que je le saigne pas pour de bon. La fin, c'est lui qui gagne. Bon, je sais pas qui a écrit le scénario. Mais bon, il fallait une fin. Mais je viens quand même de tuer plein de monde. Mais peut-être c'est sur la fatigue à la fin que je me fais avoir.
Bam. Je t'attraperai le bras et tu te mets à genoux.
La vie est absolument incroyable. Il y a un an de ça, j'ai failli mourir. Un an après, je me retrouve à faire le gladiateur et je me rends compte.
Voilà, David Ginola reste fasciné par ce tournage et par ce lieu sacré, meilleur, sacré et consacré, meilleur parc d'attractions au monde.
C'est amplement mérité. Quand on voit le départ il y a 40 ans et aujourd'hui ce qu'ils ont été capables de faire, partant de pratiquement rien, d'un petit spectacle, c'est vraiment incroyable. Et le fait de rester quelques jours là-bas m'a permis de découvrir des gens charmants. Pour eux, c'est une véritable fierté.
Et donc, vous avez la jupette comme Charlton Heston dans Ben Hur ?
Oh, mais j'ai la jupette, j'ai le casque de Maximus. Puis à la fin, bien évidemment, le héros me tranche la gorge. J'ai une poche de sang, le sang qui... C'est très, très réaliste. Je pensais au départ que les gens qui étaient assis dans l'arène étaient au courant. Et en fait, non. Ils sont venus voir le spectacle en pensant que j'étais un gladiateur qui faisait partie de la troupe. C'était vraiment une très belle expérience.
Voilà, 21h, M6, ce soir. Moi, honnêtement, ça m'a beaucoup amusé et beaucoup intéressé.
Merci beaucoup, Isabelle. Merci à toute l'équipe. On se retrouve dans un instant pour se dire au revoir. Oui, mettez un petit peu de, de circonstance. Et monsieur Bernard Lehu, notre preux chevalier, vous dira si vous avez gagné votre boîte de jeu.
La boîte.
A tout de suite.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Bon alors, la question de notre jeu en catégorie musique était la suivante. Quel trio de chanteurs a formé les Vieilles Canailles ?
Bah la réponse avec eux.
J'ai sorti mon fusil, Vieilles Canailles. Tu sais, j'ai sorti mon fusil, oui, Vieilles Canailles.
C'est génial idée, ça, oui, voilà.
Et quand je te tiendrai au bout, je rigolerai.
Jaco
Dutron. Lady Mitchell. Voilà, vous êtes gâtés, vous avez gagné le jeu des 15 ans de Laissez-vous tenter. Merci beaucoup à toute l'équipe.
Vous écoutez RTL.